Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver à cette nouvelle journée. Gardez l'écoute de VOA Afrique pour nous retrouver dans notre carrefour pour continuer notre pèlerinage de la science et de la santé avec plein de bonheur et d'espoir. Eric Manilakidza en votre compagnie. Aujourd'hui, Carrefour s'articule sur votre passion, le smartphone. Des avantages, mais aussi des méfaits qui peuvent être désastreux à l'école, en famille, en groupe ou entre amis. Faites gaffe, la consommation du smartphone peut affecter votre vie, une sorte de conditionnement comme le chien de Pavlov.
Moi, je ne supporterais pas que mon épouse, par exemple, passe tout son temps au téléphone alors que nous sommes ensemble, pas plus que je ne supporte que mes enfants passent toute leur journée pendus au téléphone. Ils ne le font pas.
Le psychologue Axel Clermans va cerner les dynamiques d'un groupe, l'attention des étudiants, mais surtout les témoignages d'un enseignant, un parent, sans oublier vos commentaires sur Facebook. Il n'est pas rare de nos jours de voir des gens manger ensemble au restaurant sans se parler, mais en pianotant sur leur smartphone. Ce genre de scène quotidienne est la matérialisation des pires craintes concernant les effets de la technologie sur la vie humaine. D'autres, cependant, disent que la technologie est en constante évolution et qu'elle peut permettre de l'améliorer. Des universitaires et des experts en technologie ont débattu du sujet récemment à Los Angeles. Le récit de Elizabeth Lee par Maëlys Hegel.
Repousser l'ennui, rechercher l'amour. Aujourd'hui, on peut presque tout faire avec un smartphone ou un ordinateur connecté à Internet. Écoutons Linda Birch de l'entreprise Common Sense Media, spécialisée dans l'étude des médias.
L'un des problèmes avec la technologie, c'est qu'on y pense souvent de manière machinéenne. C'est bon ou c'est mauvais, mais en fait, c'est un outil.
Un outil qui aide les parents à rester en contact avec leurs enfants ou entre amis ou encore à améliorer son expérience d'achat. Un monde connecté est un monde plus riche, explique Bridget Carling de l'entreprise Intel, qui construit du matériel informatique.
Nous sommes à une époque où la technologie est évaluée non seulement pour le produit qu'elle est, mais aussi pour l'expérience qu'elle rend possible.
La manière de rencontrer des gens a changé avec Internet. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres, les utilisateurs sont exposés à un plus grand groupe qu'auparavant. On peut rencontrer des gens de partout dans le monde, de toutes les cultures. Il n'y a plus de barrières, comme l'explique Sam Yagan de OkCupid, site de rencontres américain.
De plus en plus, des mariages ont commencé par une rencontre en ligne. Et finalement, les mariages deviennent de plus en plus variés car on rencontre des personnes qu'on n'aurait pas pu croiser dans la vie réelle.
L'autre avantage de la technologie, c'est qu'elle est un nouveau débouché pour les étudiants. Il y a quelques années, on ne pouvait pas faire carrière dans la technologie. Aujourd'hui, oui. Linda Birch.
La manière dont les enfants utilisent la technologie pour exprimer leur créativité est incroyable.
Mais parfois, cette excitation est tempérée par la crainte qu'ont de nombreux parents. Toujours Linda Birch.
Se disent, est-ce que ça ne va pas abîmer le cerveau de nos enfants? Est-ce qu'ils ne vont pas rester enfermés dans une bulle? Les enfants commencent à utiliser la technologie dès l'âge de 4 ans aujourd'hui. Ils sont souvent meilleurs que leurs parents et comprennent plus vite.
Alors que le débat se poursuit sur les avantages et les inconvénients d'un monde connecté, la technologie ne cesse d'évoluer. Il faut donc créer de nouveaux espaces de discussion sur la façon dont les gens devraient utiliser la technologie à bon escient.
Merci Maëlys. Les conséquences se font sentir dans les lycées. C'est par exemple au Burkina Faso, n'est-ce pas, Boro Lambert?
Beaucoup sont accrochés à leur téléphone. Bon, il y en a même qui ne viennent pas en classe parce qu'ils peuvent aborder le cours que vous abordez là à partir de leur smartphone, comme ils ont de la connexion Internet. Donc beaucoup ne viennent même pas en classe. Ça, c'est de un. Et à partir même des smartphones là, quand vous faites le cours, ils sont en train de naviguer, ils naviguent, ils cherchent des informations. Et même avec les smartphones aussi, ils trichent en classe, ils n'apprennent pas leurs leçons, ils trichent en classe, ils photographient, les cours qui sont dans les cahiers, ils les photographient à partir de leur smartphone. Et puis après, quand il y a un devoir, et comme on a des classes à effectif pléthorique, et maintenant ils se mettent, ils feuillettent dans le téléphone et ils trichent. Donc, les smartphones, là, vraiment, ça a contribué quand même, il faut le dire, à baisser le niveau des élèves, n'est-ce pas, surtout dans nos régions comme le Burkina Faso.
Oui, et au niveau de vos élèves, si vous essayez d'analyser les statistiques, le niveau a baissé à quel pourcentage?
On va dire que le niveau a vraiment baissé plus, n'est-ce pas, de la moitié. Parce que quand on prend les années antérieures et puis aujourd'hui, bon, c'est vrai, c'est la conjugaison de plusieurs effets. Hein. Il y a les problèmes politiques, les années, à tout moment, c'est des grèves intempestives. Bon, tout ça aussi, ça contribue, n'est-ce pas, à baisser le niveau, quoi. Parce que les cours ne sont pas assurés à 100% dans l'année. Bon, il y a aussi les problèmes de NTIC, comme je venais de l'indiquer. Donc, le pourcentage a vraiment baissé. On peut dire de plus de la moitié, parce que vous avez des élèves aujourd'hui de la classe de terminale qui doivent faire le baccalauréat. Mais quand vous regardez leur niveau, leur expression, les écrits, il y a réellement des problèmes.
Oui, donc il y a d'autres facteurs, mais le smartphone, c'est un facteur important, justement. Et quand ils font ça pendant des cours, vous, personnellement, quel est le comportement que vous adoptez vis-à-vis de vos élèves qui ne veulent pas vous suivre et qui restent accrochés à leur mobile?
Bon, dans chaque établissement, il y a tout un règlement intérieur qui dit que l'utilisation des téléphones portables et l'utilisation est strictement interdite, n'est-ce pas, lors des cours et même des devoirs ou des examens. Donc, ils doivent laisser les smartphones à la maison. Ou bien vous les éteignez carrément quand vous entrez en classe. Mais les élèves ne le font pas. Et donc, quand ils ne le font pas, qu'ils allument, ils utilisent leur téléphone en plein cours. Ce qu'on fait là, on retire carrément le smartphone et on remet le téléphone à l'administration. Et l'élève va récupérer son téléphone qu'en fin d'année, c'est-à-dire généralement dans le mois de mai, quand on a fini l'école, l'élève vient maintenant pour retirer le téléphone.
Est-ce que ce sont des mesures qui portent de fruits? Ce sont des mesures qui ont été prises tardivement?
Oui, bon, ces mesures-là, hein, on les fait comme ça. Bon, on ne peut pas dire que ça porte à 100% nos espérances escomptées. Parce que vous arrachez un téléphone aujourd'hui, demain l'élève il vient avec un téléphone. Vous arrachez un autre téléphone, ce sont les parents même qui viennent se plaindre pour que vous remettez le téléphone. Donc, vraiment, avec ça, le problème, il demeure toujours. Parce qu'il y a vraiment de la résistance. Les gens sont vraiment accrochés à leur téléphone.
Ce professeur d'histoire dit également que les parents ne coopèrent pas pour maintenir l'équilibre des étudiants.
Vous savez, dans ce problème-là, il y a une part de responsabilité des parents, hein, qui, même quand l'administration, comme je viens de le dire, là, arrache un téléphone parce que l'élève l'a utilisé pendant le cours, c'est le parent même qui vient se plaindre pour qu'on rembourse, n'est-ce pas, ce téléphone-là. Parce que, bon, le parent va dire que, bon, je lui donne ce téléphone pour l'appeler de temps en temps, pour savoir où il est. C'est une manière pour moi de contrôler mon enfant. Vous ne pouvez pas lui arracher le téléphone. Et puis, je suis là, je ne sais pas où mon enfant est. Donc, ça fait que quand vous arrachez un téléphone, on lui redonne un autre téléphone à la maison. Et puis, aujourd'hui, il y a un véritable problème. Quand vous parlez de conscientisation de la part des parents, aujourd'hui, les enfants ont quand même un petit dessus. Hein. Ils ont un dessus quand même sur les parents. Ce que les enfants veulent aujourd'hui, dans la moitié des cas, c'est ce que les parents font. Donc c'est vraiment dur, c'est vraiment dur. Aujourd'hui, avoir un téléphone, aujourd'hui, quand un enfant a le BPC ou bien il a le bac, c'est l'enfant qui vous exige un téléphone. Et la marque du téléphone et le parent, pour la plupart, pour avoir l'appel, il est obligé d'avoir ce téléphone pour l'enfant. Donc les parents sont vraiment souvent très faibles devant les enfants pour leur interdire, n'est-ce pas, d'utiliser les smartphones.
Selon vous, quel est l'avenir de vos étudiants si ça doit continuer ainsi?
Bon, si ça va continuer ainsi, le véritable problème, c'est la baisse des niveaux. Et c'est la baisse des niveaux, ça va jouer évidemment sur la qualité du pays. Parce qu'on sait que les élèves ou la jeunesse, c'est vraiment le fer de lance de demain. Mais si les gens ont un mauvais niveau, ça va se faire ressentir. Ça va se faire ressentir et le pays ne peut pas avoir un avenir brillant. Et voilà pourquoi aussi les gens sont obligés. Il y en a qui ont les moyens, qui font partir les enfants ailleurs, par exemple, pour aller étudier. Même si la situation là-bas n'est pas meilleure, parce que nous aussi on est ici, mais on voit ça à la télévision, on voit ça souvent dans les journaux ici dessus, que les gens sont vraiment accrochés à leur smartphone partout, que ce soit en Amérique, aux États-Unis, en Europe ou en Afrique. Mais vraiment, si ça continue comme ça, je pense que le niveau ne peut que baisser. C'est ça la conséquence directe. Le niveau ne peut que baisser.
Oui, Est-ce que vous n'organisez jamais discussion, d'échange avec ses élèves pour justement discuter de cet impact négatif du smartphone sur leur vie future et sur leur réussite en classe.
Oui, il y a des conférences ou bien des rencontres, des réunions qui sont organisées souvent, soit par le professeur, soit par l'administration, pour conscientiser les élèves sur l'utilisation des téléphones en classe, parce que ça peut réellement jouer sur eux. Quand on est au téléphone, on est forcément distrait. De la manière qu'on ne peut pas conduire en regardant son téléphone, on ne peut pas aussi suivre le cours en classe en regardant son téléphone. Mais aujourd'hui, quand même, il y a des rencontres pour sensibiliser les élèves, leur dire, voilà pourquoi on fait toujours des règlements intérieurs dans les écoles. Quand l'année commence, on vient lire le règlement intérieur dans les écoles. Les téléphones, vous les laissez à la maison. Ou bien quand vous les amenez en classe, il faut les éteindre. Parce que ça va jouer, n'est-ce pas, sur votre compréhension du cours présent. Donc, à tout moment, il y a des rencontres qu'on organise, soit par l'administration, soit même par des structures publiques qui viennent les entretenir, n'est-ce pas, sur l'utilisation, n'est-ce pas, de ce smartphone-là. Parce qu'évidemment, le smartphone, quand on utilise, il y a forcément la connexion Internet. Bon, c'est que tout ce qui est dans l'Internet, ce n'est pas forcément bon pour les enfants. Donc, il y a toute cette conscientisation-là. Il y a des parties où il ne faut pas aller, il y a des parties où il faut aller dans la connexion, dans l'Internet. Et puis aussi, surtout quand on est en classe, il faut éteindre le téléphone. Il ne faut pas prendre le téléphone pour tricher, il ne faut pas prendre le téléphone pour distraire soi-même ou bien pour distraire ses camarades. Donc, à tout moment, en tout cas, il y a des rencontres, n'est-ce pas, pour conscientiser ces élèves-là, n'est-ce pas, concernant leur vie d'école.
La dépendance ne s'observe pas seulement à l'école, mais surtout à la maison. Ma collègue Michel Joseph nous dit comment elle a eu du mal à appliquer la rigueur avec ses enfants.
En fait, j'étais très stricte du départ. Les smartphones les plus avancés, c'est eux qui ont dû les acheter. Moi, je leur ai acheté des smartphones pour la communication parentale, où es-tu, etc., ce genre de choses. Mais lorsqu'il s'agissait d'aller un peu plus loin, c'était à leurs propres frais. Donc, ils ont dû économiser de par leur petit boulot, etc. Parce que moi, je leur ai dit, vous avez déjà un ordi à la maison. Il n'y a pas de raison que maintenant, je vous finance un smartphone. Je vous avais le téléphone de base. Pour le reste, c'est à vos frais.
Est-ce que à un certain moment, ça vous a agacé?
Oh, absolument.
Y avait-il une relation entre vous?
Par exemple, pour les repas à table, c'était absolument hors de question. Il fallait que le smartphone reste dans la chambre, etc. Parce qu'il y a les coups de fil, il y a le Instagram, il y a tout qui arrive tout le temps, les petits bips là. Et on ne peut pas avoir une conversation. Donc, c'était hors de question à table, pas de smartphone.
Et ils le respectaient?
Dès que je tournais le dos, ou tout d'un coup, eux, ils sont à table et le smartphone est à côté, en dessous du plat ou à côté... Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ce bip? Absolument pas, il fallait absolument ranger. Parce que, bon, après que le repas est terminé, tout de suite, c'est le retour au smartphone, quoi.
Et aujourd'hui, est-ce que cette rigueur s'impose toujours à eux?
Oui, en fait, grâce à cette rigueur, mais depuis le début, un de mes fils avait choisi, en fait, de ne pas avoir un plan téléphonique pour son smartphone. Mm-hmm. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'avant de quitter la maison, il organisait son parcours. Et quand il arrivait quelque part, donc il a dit « Maman, je me sens si libre sans cette machine, je me sens si libre ». Donc, eux-mêmes se disciplinent maintenant, ils s'autodisciplinent. Mais j'ai dû vraiment mettre cette discipline en place. Mais, donc, maintenant, ils s'autodisciplinent quand ils en ont besoin.
Et ils ont compris l'intérêt de garder cet équilibre.
Absolument, surtout le fait qu'ils doivent financer leur propre... smartphone. Donc, ils se débrouillent très bien quand ils doivent peut-être en acheter un autre, etc. Ils savent comment vivre même sans smartphone, ce qui est impressionnant.
Michel Joseph utilise aussi un smartphone. Mais comment parvient-elle à s'acquitter de ses tâches professionnelles et familiales?
Au travail, quand je prends une petite pause, je jette un coup d'œil pour être sûr que je n'ai pas raté un message urgent. Mais en gros, au travail, s'il faut me joindre, il y a le téléphone du travail. Et puis, je regarderai les messages durant une petite pause, quoi. Mais sinon, durant la mise en onde, durant le travail de préparation pour la mise en onde, il n'est pas question d'être sur le smartphone. On peut s'engouffrer dedans et tout à fait oublier les repères, quoi, du travail. Donc, il est important d'avoir une certaine discipline. Mais bien sûr, le smartphone est un outil. On s'en sert dans le studio s'il faut, par exemple, communiquer avec des auditeurs, etc. Mais pour ce qui est de la communication personnelle, il faut vraiment le faire en gérant. C'est infernal.
Et à la maison ?
À la maison, je crois que les collègues, tout le monde le sait, dès que je quitte mon travail, dès que je suis à la maison, c'est vraiment le repos total de tout ce qui est technologie, médias, etc. Donc, peut-être que je ne suis pas à jour, mais vraiment, il faut vraiment un détox, quoi.
Mais je vois les week-ends, le samedi, le dimanche, votre téléphone qui est marqué sur un papier, s'il y a un problème, contactez Michel Joseph.
Et oui, si je vois, par exemple, s'il s'avère que mon téléphone est allumé, et oui, par urgence, je regarderai. Si je vois que c'est la Voix de l'Amérique, les studios, oui, je vais répondre. Mais pour ce qui est de tout le temps jeter le coup d'œil sur chaque Facebook, chaque commentaire, chaque message, impossible de vivre sa propre vie. Il faut vraiment pouvoir se détacher quand il faut. Et oui, se reconnecter quand il faut. Mais pouvoir connaître la différence.
Sur notre page Facebook, vous êtes nombreux à partager votre expérience. Jacques Aristide et Maëlys Segel nous présentent quelques-uns de vos commentaires.
Youssouf Ouedraogo de Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, a toute chose à ses avantages et inconvénients. Au-delà de son apport positif, le smartphone a effectivement des méfaits considérables sur la société. Quant à moi, j'apporte ma petite pierre à la construction de l'Afrique libre. J'arrive à m'exprimer plus assez facilement et librement, même si le coût en termes d'investissement reste très important. Mais je pense qu'on doit modérer sa dépendance par rapport au smartphone afin d'accorder plus de temps à la famille, au travail et aux loisirs. N'oublions pas que le sens premier de son utilisation est l'amélioration de l'éveil citoyen.
Christian Kenfak du Cameroun dit qu'au niveau familial et dans les couples, ça crée des infidélités. C'est très mauvais, les smartphones dans notre vie d'étudiant. On n'apprend presque plus et bon, on est aussi insensible à la vie des gens autour de nous.
Pour Lama Alain Nyereke de Lomé Togo, le smartphone rend les élèves paresseux.
Alphonse Bouaki dit « Étudiants, exploitez le côté éducatif et instructif du smartphone qu'un engouement obsessif vers des futilités. Aussi, équilibrez l'usage de cet appareil pour le repos et pour revoir les notes ou s'acquitter des travaux pratiques et des devoirs à domicile que les enseignants demandent. »
Franck Kamalebo, étudiant étranger vivant en Tunisie. Mon smartphone me permet primo d'être en contact permanent avec ma famille en RD Congo via les applications comme Facebook, Messenger, Viber et Skype. Ça me réduit le coût des appels étant donné que j'ai ma connexion Wi-Fi chez moi. On peut parler autant d'heures qu'on voudra. Secondo, c'est devenu ma bibliothèque principale. Je vérifie tous les jours mes mails et j'en profite aussi souvent pour mes recherches sur Internet. Mais l'inconvénient majeur pour moi, ce que j'y suis devenu tellement accro que j'oublie souvent de manger et je dors affamé, mais ça ne m'empêche pas de faire toutes mes tâches.
Serge Kalombo Wamundiantou de RDC dit que cette dépendance a un impact sur la vie des gens en général, les jeunes en particulier. Plus on devient accro, plus on interrompt les relations familiales et estudiantines en passant beaucoup d'heures devant son smartphone.
Christian Djerabé, N'Djamena, Tchad. Vraiment, j'ai des problèmes avec ma femme. Mon smartphone me prend tout mon temps, toute la nuit. Je ne dors pas et je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi.
Zanapé Théophile Ouattara, d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette dépendance a vraiment des effets néfastes sur la vie d'étudiants que nous sommes. On peut citer en exemple le manque de temps pour les études. On n'arrive plus à apprendre et cela nous conduit vers l'abattoir.
Delphin Wakubula Shikai de Kinshasa, RD Congo. Chaque chose a son bon et mauvais côté. Ainsi, avec le smartphone, je passe souvent mon temps quand je n'ai pas à faire et je m'informe par rapport à l'actualité du monde, d'une part. D'autre part, je me vois en train de négliger mes cours en manquant le temps de revoir certaines matières.
Ibrahim Pogba Koivogi de Kissoudougou en Guinée, le smartphone est un mal nécessaire.
La consommation du smartphone est devenue un phénomène de société qui change notre façon d'être, de faire, de penser, qui peut affecter les rapports humains et sociaux, sans oublier la manière dont le cerveau réagit au stimulus. Pour le comprendre, nous avons joint Axel Clermens, psychologue cognitive à l'Université libre de Bruxelles.
Cela influence notre mémoire, parce qu'il y a des études qui montrent, notamment avec les moteurs de recherche, que les informations que l'on sait est susceptible d'être retrouvée par une recherche via un moteur de recherche sont moins bien mémorisées que les informations que l'on sait que l'on ne va pas pouvoir retrouver via un moteur de recherche. Et donc il y a une sorte d'externalisation de notre mémoire, si vous voulez, qui se trouve alors être stockée à l'extérieur de notre cerveau dans ces outils qu'on utilise, les smartphones, les moteurs de recherche. Et ça, on ne sait pas très très bien quelles vont être les conséquences à long terme de ça, surtout quand nous sommes en train d'apprendre, parce que ce n'est pas la même chose d'apprendre de nombreux faits différents qui se superposent alors dans notre cerveau, quelque part, qui doivent trouver leur place les uns à côté des autres, qui s'intègrent lors du sommeil, se modifie lors du rappel, par exemple, quand on se rappelle une information. Ce n'est pas la même chose tout cela que de savoir finalement simplement comment accéder à l'information externe. Parce que là, l'information, elle reste à l'extérieur, elle n'est pas intégrée quelque part dans les personnes que nous sommes.
Il s'agit donc d'une sorte de conditionnement en modèle pavlovien.
Oui, on devient un petit peu accro, effectivement, parce que, bien sûr, toutes ces tâches sont énormément facilitées par cette technologie, et donc c'est difficile de résister à leur utilisation, de renoncer à utiliser, par exemple, un GPS pour trouver son chemin. Et puis alors, il y a les aspects sociaux, évidemment, hein, donc on peut être accro à cette technologie parce qu'elle nous facilite la vie, mais il y a aussi tous les aspects sociaux, donc via lesquels nous interagissons avec autrui. Et donc on sait qu'il y a vraiment des espèces d'addictions au téléphone chez les jeunes en particulier. Hein, donc il y a des exemples connus, si vous voulez, d'adolescents qui envoient plusieurs centaines de SMS par jour à leurs amis et qui semblent être perpétuellement connectés comme ça. C'est un problème, évidemment. Je ne pense pas qu'il faille nécessairement en faire un problème médical, mais c'est quelque chose qu'il faut parvenir à gérer. Et ce n'est pas évident de savoir exactement comment.
Professeur, prenons l'exemple d'un couple. Si un des conjoints ne passe que tout son temps avec son smartphone, ça peut détruire la famille, n'est-ce pas?
Bien sûr, évidemment. Ce n'est pas la seule chose qui peut détruire une famille, mais je pense que oui, bien sûr, évidemment. Oui, ça se... C'est évident. Je crois que dans les familles en particulier, ça peut être un problème parce qu'on a le sentiment que l'autre, même s'il est là physiquement, n'est jamais avec nous. Mais s'il regarde le football à la télévision, ce sera la même chose. Hein. Donc je ne pense pas que là, les smartphones en particulier posent des problèmes fondamentalement différents de ceux que l'on a avec d'autres technologies. Et je pense que dans ces cas-là, c'est vraiment un problème de couple plus qu'un problème de smartphone.
Dans cette situation, comment s'y prendre?
Je pense qu'il faut avoir une bonne discussion. Je crois que moi, je ne supporterais pas que mon épouse, par exemple, passe tout son temps au téléphone alors que nous sommes ensemble, pas plus que je ne supporte que mes enfants passent toute leur journée pendus au téléphone. Ils ne le font pas.
La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. N'accepte pas que le smartphone crée une identité différente de ce qui vous êtes vraiment. Ainsi s'achève Carrefour Sciences et Santé. Eric Manelakiza vous retrouve à la prochaine.